Session théologique par le Père Philippe Parimont, le 4 novembre 90.
Je réponds à quelques questions posées. Pouvez-vous réexpliquer en quoi l'incarnation et la croix rachètent l'homme? Quel est le lien direct entre la vie, souffrance du Christ et sa rédemption? Nous allons le faire, ça. Père, pourriez-vous expliciter et détailler la position de Teilhard de Chardin sur l'incarnation, ayant comme fin première l'achèvement de l'œuvre de la création? Oui. C'est évidemment les deux grands aspects de Python Scott. Donc, sitôt après saint Thomas, je crois qu'avant saint Thomas, vous voyez, saint Thomas, fin du 12e, 13e, saint Thomas dominicain. Donc, dans la lumière, un souci de préciser exactement quelle est la finalité de l'incarnation. Saint Thomas n'hésite pas de dire, dans la première question sur l'incarnation, que l'incarnation a été faite par Dieu pour réparer la faute, que seul un fils de Dieu, donc le fils s'incarnant, pouvait vraiment réparer la faute première. Donc l'incarnation n'est pas faite pour achever la création, mais pour réparer la faute. C'est le mystère de la rédemption qui commande l'incarnation. Pour pouvoir racheter vraiment l'homme, il fallait un fils de Dieu. Parce que seul Dieu pouvait réparer. C'est la grande position de saint Thomas. Oui. Donc l'incarnation est commandée par la rédemption. C'est pour racheter le péché que le fils de Dieu s'est incarné. Tandis que la position de Don Scott. Don Scott vient juste après saint Thomas. Don Scott est un franciscain. C'est que saint Thomas est un dominicain. C'est pas des querelles entre dominicains et franciscains, mais c'est deux ordres. Vous savez bien, il y a le baiser de saint Dominique et de saint François. C'est pas parce que les pères s'embrassent que les fils s'embrassent. Mais d'autre part, il faut bien voir qu'avec les franciscains, il y a une vieille coutume entre dominicains et franciscains. On s'aime beaucoup. On se reçoit toujours pour la Saint-Dominique et la Saint-François. Et c'est pas extérieur. C'est profond. C'est profond. Parce que la position de Don Scott, beaucoup de franciscains, du reste, sont thomistes, suivent saint Thomas, et ne suivent pas Don Scott. Ils suivent Don Scott quand ils sont jeunes, parce que c'est un peu idéaliste. Puis, en revenant à la réalité, ils reviennent à saint Thomas. Je crois, parce que saint Thomas est beaucoup plus réaliste. Don Scott est beaucoup plus idéaliste. C'est beau, Don Scott. Pour Don Scott, vous voyez, l'incarnation, c'est pour l'achèvement de la création. En premier lieu, même s'il n'y a eu pas le péché, il y aurait eu l'incarnation pour achever. Le feu d'artifice n'aurait pas été parfait s'il n'y avait pas eu l'incarnation. Il fallait l'incarnation. La dernière pierre n'aurait pas été posée c'est l'incarnation pour achever et en même temps pour réparer la faute. Donc ce que je vous montrais ce matin. Alors, Théia, c'est plus complexe. C'est beaucoup plus complexe, Théia. J'ai lu pas mal de Théia. Je l'aime bien. C'est beau. C'est très beau. C'est pas toujours vrai. Et c'est très beau. Faut pas s'y égriser. Théia est un homme séduit par la beauté et l'harmonie. C'est un homme de science, avant tout. Il met sa science au service de sa foi. Il faut lire les lettres de Théillard à sa sœur pendant la guerre de 14. Ça explique tout. Il aimait énormément sa sœur. Et quand il est dans les tranchées, en 14, il explique à sa sœur qu'il faudrait une apologétique merveilleuse. C'est encore le temps de la grande apologétique en 14. Il faudrait une apologétique merveilleuse pour montrer toute la splendeur de l'incarnation et de la création. Vous voyez, il est ému de la création, cet homme-là. Et pour lui, l'incarnation, c'est l'achèvement de la création, avant tout. Et le mystère de la rédemption, c'est second. Vous voyez, alors il rejoint bien Don Scott. C'est l'achèvement de la création. Pour que la création soit parfaite, il faut ça. Mais c'est point de vue de la beauté, point de vue de l'harmonie. C'est pas le point de vue premier de saint Thomas où le mystère de l'incarnation est commandé par la rédemption. C'est pour que la rédemption existe qu'il faut que Dieu s'incarne. Il faut, vous voyez dans quel sens. Dieu pourrait très bien réparer la faute autrement. Mais pour que la faute soit réparée d'une manière la plus divine, la plus parfaite, il faut l'incarnation. Oui, c'est très différent comme perspective de finalité. Alors, Théillard, c'est un homme qui a été très pris par la science, l'évolution. Et pour lui, peut-être que l'évolution commande toute sa théologie. Alors, pour que l'évolution soit parfaite, il faut qu'au sommet, il y ait le mystère de l'incarnation. Mais, alors c'est là où il y a quelque chose qui est très difficile à comprendre à Théillard, et j'avoue ne pas le comprendre. C'est peut-être incompréhensible, tu vois. C'est peut-être. C'est. Oui, parce qu'au fond, si j'étais dans la position de Théillard, je devrais dire que l'humanité dans le Christ a atteint le sommet. Ce qui est vrai. Je ne peux pas aller au-delà du Christ. Puisque dans le mystère du Christ, c'est l'homme qui est devenu Dieu. Donc, si l'homme est devenu Dieu, on ne peut pas aller plus loin. Donc on devrait faire ce schéma comme celui-ci, une grande montée de l'humanité jusqu'au Christ, le Christ arrive au sommet. Et après le Christ, selon Théillard, il y a encore une montée. Et c'est là où c'est très difficile à comprendre. Parce que Théillard est quand même chrétien, il sait bien que Christ est au sommet. On ne peut pas dépasser le Christ. C'est impossible. Alors, on a comme une perspective comme celle-là, vous voyez. Une humanité qui va reculons, si j'ose dire. Parce qu'elle est tendue vers le Christ. Alors le Christ est un homme, et après le Christ, c'est l'humanité. C'est un peu un idéalisme, vous voyez. L'humanité est prise. Parce qu'il reconnaît, il est quand même chrétien, donc il reconnaît que le Christ atteint un sommet. J'ai lu beaucoup de Théillard, c'est beau Théillard. Quand on lit du Théillard, il faut chercher la beauté, pas la vérité. C'est très très beau, c'est une apologétique de beauté. C'est vrai, quand ça a commencé à paraître, ça secouait beaucoup les théologiens. Tous les couvents étaient divisés en deux, ceux qui étaient théillardiens, ceux qui ne l'étaient pas, même chez les dominicains. J'étais à Fribourg à ce moment-là. Et alors, on a eu une réunion entre la moitié des professeurs de l'université, au point de vue philosophique et théologique, étaient théillardiens. L'autre moitié n'était pas théillardien. Théillard a secoué. Hein. À ce point de vue-là, c'est très bien, il a secoué. Il est très évolutionniste. Très. C'est la perspective de l'évolution appliquée à la théologie, au fond. Alors, on ne sait pas très bien si après le Christ, il y a encore une montée. Le Christ total. Okay. Le Christ, c'est l'Église. Oui. Le Christ dans sa plénitude. Mais pour nous, le Christ est au sommet. Et ce qui vient après le Christ ne dépasse pas le Christ. Nous sommes tous tendus vers le Christ. Et nous savons bien que nous ne serons pas plus chrétiens que le Christ. C'est difficile. Et plus humain que le Christ. C'est là la grande faille chez Théillard. Oui, l'alpha et l'oméga. Le Christ est à la fois l'alpha et l'oméga. Pour moi, il est sommet. Tandis que pour Théillard, l'oméga, c'est le Christ dans sa totalité. Alors c'est l'Église. Ça. Ça choque un peu le sens chrétien. J'avoue. Oui. Mais alors, il est très pris par la beauté. Théillard est un être qui est très pris par la beauté. C'est le souci de Théillard. Alors il y a une espèce de panchristique qui est le grand mystique. Oui. Et qui est le Christ dans sa totalité. C'est pour ça que le Christ dans sa totalité plus. Alors que nous disons que le Christ, le corps mystique n'est pas plus que le Christ. Le Christ c'est la tête. Tandis que pour lui, il y a une tentation de voir que le corps du Christ est plus que le Christ. Vous voyez, il y a quelque chose de plus. Il ne le dit pas expressément, mais c'est un petit peu dit. Alors, la vision de Théillard, c'est que le Christ, avant tout, vient pour achever la création. Le péché, c'est secondaire. Il nous rachète du péché, mais c'est secondaire. C'est avant tout l'exaltation de l'homme dans le Verbe de Dieu. Oui, c'est avant tout ça. Donc, un optimisme extraordinaire. C'est pour ça qu'il prend tellement chez les savants. Et alors, il y a chez lui, ça je suis bien obligé de le dire, un télescopage complet de la philosophie. C'est la science. C'est la foi et la science. Alors, je crois que c'est là l'erreur fondamentale. Parce que l'Église a mis en garde contre Théillard. Hein. Pas plus, parce que Pie XII aimait beaucoup Théillard. Un petit peu de connivence entre les deux. Pie XII n'est pas tombé dans les erreurs de Théillard, mais il l'aimait. Je comprends. Théillard, c'est beau. Mais c'est pas vrai. Mais c'est beau. On se laisse séduire par ça. Il faut se laisser séduire par Théillard. C'est beau. C'est très beau. Mais il faut en même temps dire que c'est pas vrai. Alors ceux qui aiment la beauté se laissent prendre. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas ça. C'est pas la vision du Christ telle qu'elle est dans toute la grande tradition de l'Église. Oui. Mais je sais que c'est très séduisant. Quand on est jeune, on est très très séduit par Théillard. Quand on arrive à un âge plus avancé, on se dit non, mais c'est pas ça, ça correspond pas à la réalité. C'est pas ça. Le mystère du Christ, c'est le mystère de la rédemption. Avant tout, c'est pas le mystère de la beauté. C'est très bien la beauté, mais c'est pas quelle est la vérité. Alors si je lis Théillard dans une perspective de beauté, c'est très beau. C'est merveille. Théillard ne voulait pas être contre saint Thomas. Pas du tout. Il fait encore partie de ces jésuites qui étaient de il n'a pas vu avec assez de netteté que pour saint Thomas, le mystère de l'incarnation, c'est en premier lieu le mystère de la rédemption. À un moment donné, j'ai beaucoup lu Théard parce que c'était un peu la vogue à ce moment-là. J'ai jamais été, mais je l'aimais beaucoup. Et je continue de l'aimer parce que c'est quand même quelqu'un qui avait une grande vision. C'est beau. C'est beau. C'est pas vrai. C'est embêtant. Mais c'est très beau. C'est, je veux pas dire. Théard aurait été au moment des pères de l'Église. Il n'y aurait pas pu l'être, puisque c'est la science qui l'a conduit à ça. C'est l'évolution. C'est un évolutionniste. Ah oui, alors là, vraiment, à fond. C'est du reste sa spécialité, tu vois. Sa spécialité, là, j'entre pas dans les discussions, parce que parmi les savants, il y en a qui disent qu'il y a eu des tas de choses fausses. Ça, je n'entre pas dedans. Je prends qu'au plan théologique. Au plan théologique, Théard est plus, j'allais dire, orienté vers l'harmonie et la beauté que vers la vérité. Parce que ça ne colle pas avec l'évangile. Ça veut dire les choses comme elles sont. Mais il est persuadé, hein, c'est un bon chrétien, il est persuadé que ce qu'il dit va faire avancer le christianisme et le mettre en harmonie avec la science. Parce que son point de départ, c'est l'apologétique. Il faut lire ses lettres qu'il écrit à sa sœur quand il était pendant la guerre de 14. Alors ça, c'est très net. Il veut donner une grande apologétique pour montrer la splendeur du Christ. C'est très beau, ce point de vue-là. Mais c'est pas le souci premier de la vérité. C'est un souci premier plutôt de beauté et d'harmonie. C'est presque plus l'harmonie que la beauté. Mais ça va ensemble. Parce que j'ai beaucoup lu Théard à un moment donné. Pas parce que j'étais disciple de Théard, non. Mais parce que ça me semblait, de son temps, quelque chose de très beau. C'est beau. C'est pas vrai. Alors ceux qui veulent se laisser séduire n'ont qu'à lire du Théard. L'ennui, c'est quand on se réveille, on dit « Ah, mais c'est pas vrai. » Parce que je crois que le mystère d'incarnation n'est pas fait premièrement pour achever la création, mais c'est pour racheter l'homme. Tout est là. Il y a une perspective évolutionniste, vous voyez, qui veut montrer que l'homme, au terme, devient Dieu. Alors évidemment, le Christ est la clé de voûte. Parce qu'il est homme et Dieu. C'est sûr. Et l'Église, c'est le corps mystique. Alors, c'est cette chose merveilleuse. Alors que la grande perspective de la plupart des pères de l'Église, presque tous, c'est de considérer que la rédemption, ce n'est pas l'achèvement de l'humanité. C'est sauver l'homme. C'est le mystère de la rédemption. Pour saint Thomas, c'est la rédemption qui commande l'incarnation. Pour Don Scott et Théard, c'est l'incarnation qui commande la rédemption. J'espère que vous voyez les deux aspects. Non, je n'entre pas plus hein, dans Théard. Je l'aime beaucoup, vous savez. Je serais très heureux de le retrouver au ciel. Parce qu'au ciel, il sera dans la vérité. Il dira, oui, il n'y a qu'en Dieu, il n'y a qu'en Dieu, où vérité et beauté s'identifient. Parce que moi, je crois que c'est ça qui est dans le fond. J'ai beaucoup de savants, ça existe ça. C'est que pour eux, la beauté est vraie. Alors que ce n'est pas toujours vrai. Beauté et vérité sont deux critères différents. La beauté, c'est une œuvre d'art. Cherche la beauté. Tandis que dans ma vie, je cherche autre chose que la beauté. Je cherche la vérité. C'est pas la même chose. Alors on peut être séduit par la beauté. Alors quand on est séduit par la beauté, on ne voit plus que la beauté. Et on est très heureux quand beauté et vérité se rencontrent. On est très heureux de rencontrer, de voir ça. Parce que Théa, c'est grand, hein. C'est très grand, c'est beau. Pas nier. C'est, ça se voit de là, c'est, je salue Théa comme un poète assez étonnant. Assez étonnant. Une espèce de liturgie, de, j'allais dire une liturgie intellectuelle. De la grandeur du mystère d'incarnation. Alors, quel est le lien entre les deux finalités de l'incarnation? Rédemption, l'achèvement de la création, donc de la personne. La première a-t-elle une influence sur la deuxième? Et surtout, la deuxième a-t-elle une influence sur la première? Très bien. C'est ce qu'on appelle les deux grands courants dans l'Église, le scotisme et le thomisme. Alors, je suis thomiste, donc je suis mauvais juge. Je vous l'avoue tout de suite. J'étais formé par saint Thomas, dont Scott, je l'aime beaucoup, mais je l'aime comme un feu d'artifice. Vous voyez, c'est très beau, c'est très beau. Mais je ne pourrais pas m'appuyer sur ton Scott. Je vois trop les failles. Et je vois trop ce qui se passe dans la réalité. Je suis polarisé par la bonté, mais pas par la beauté. La beauté, c'est merveilleux, mais ça ne peut pas me finaliser. Je ne suis pas finalisé par la beauté. Je ne peux pas. Je suis polarisé par la bonté. Vous voyez, si je regarde l'écriture, Dieu dit « Valde bonum ». Il ne dit pas « Valde pulchrum ». Dieu n'a pas créé notre monde et l'homme et la femme pour la beauté. Je regrette. Il les a créés pour la bonté. Il a voulu que dans le cœur de l'homme et le cœur de la femme, il puisse y avoir un abîme de bonté qu'il ne pouvait pas mettre dans les anges. Mais les anges sont plus beaux que nous. Je regrette. Mais les anges sont plus beaux que nous. Ça, on ne peut pas nier. Les anges ont un éclat de beauté extraordinaire. Chez les anges, je crois qu'on pourrait dire que le beau et le bon vont de pair. Mais pas chez nous. Nigra sum sed formosa. Hein? Cantique des cantiques. Nigra sum, ça ne veut pas dire je suis nègre, donc je suis beau. Non, c'est pas ça. Nigra sum, n'est-ce pas? Nigra sum, je suis noir. Hein? C'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Je suis noir. Vous voyez, je mets la même chose, hein? Aussi bien pour toutes les races humaines sont les mêmes aux yeux de Dieu. Exactement les mêmes. Je ne peux pas dire qu'il faut nécessairement, voyez, que la beauté soit première. Non, c'est la bonté qui est première. Nigra sum sed formosa. Qu'est-ce que ça veut dire, nigra sum sed formosa? Je suis caché. Je suis caché, je suis noir, je n'ai pas d'éclat. Mais je suis belle, pour Dieu, d'une beauté intérieure. Alors, pour saint Thomas, c'est très net. La beauté n'est pas identique à la bonté. Et tout le mystère de de la rédemption, c'est en vue de la bonté. c'est pas en vue de la beauté. L'œuvre de la création n'est pas en vue de la beauté, mais en vue de la bonté. Alors, je replante ce que je disais pour que nous voyons bien. Parce que, quel est le lien entre les deux finalités de l'incarnation ? L'incarnation est en vue de la rédemption. Voilà. La fin première, enfin propre. Donc, le Verbe est devenu chair en vue de la rédemption. Le Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme en vue de la rédemption. La finalité. Pour que cette fin propre se réalise, il faut que le Verbe s'incarne. Pour que cette fin se réalise, il faut que le Verbe s'incarne. Et donc, l'incarnation est en vue de la rédemption. Et non pas en vue de l'achèvement. Il est très vrai que dans le mystère de l'incarnation, l'homme, assumé par le Verbe, l'homme, assumé par le Verbe de Dieu, connaît dans le Verbe de Dieu une perfection ultime. Il n'y a pas d'homme plus parfait que le Christ. Ça, c'est sûr. C'est l'homme parfait. Il n'y a pas d'homme plus parfait. Mais l'incarnation ne s'est pas faite pour achever l'humanité. Elle s'est faite pour racheter l'humanité. Dans un but d'amour pour les hommes. Pas pour que le Christ soit le premier. De fait, le Christ est le premier parmi tous les hommes. Mais ce n'est pas le but de l'incarnation. Le but de l'incarnation, c'est pour que Jésus puisse nous racheter, puisse s'ouvrir pour nous. Vous comprenez, hein ? Vous allez peut-être mieux comprendre. Si l'incarnation était pour que Jésus soit au sommet de l'humanité, le roi des rois, et c'est très vrai que l'humanité du Christ, le Christ en tant qu'homme, c'est l'homme le plus parfait qui soit. Il n'y a pas d'homme plus parfait. Il n'y a pas d'homme plus beau. Il n'y a pas d'homme plus bon. Impossible de trouver un homme plus parfait. Mais le mystère de l'incarnation n'est pas fait, premièrement, pour que dans le Christ, l'homme soit parfait. C'est pour que dans le Christ, l'homme puisse racheter l'homme. Mais ce n'est pas la même finalité. Il est venu pour nous sauver. Il est venu par amour pour nous. Il n'est pas venu pour régner sur nous. En premier lieu. Il est roi. Il l'a dit devant Pilate. La seule fois. C'est extraordinaire, ça. Il y a un petit passage dans Saint Jean que j'aime beaucoup. Je crois que Jésus est philosophe quand il parle à Pilate. Je crois que c'est le seul moment où Jésus est philosophe. Parce qu'il est devant un philosophe. Il est devant un homme qui connaît parfaitement la philosophie stoïcienne. Et Jésus parle alors en philosophe, en face de Pilate. Il n'a jamais parlé de philosophie à ses apôtres. Pauvre Pierre. Jamais, jamais, jamais. Ni Jean, quand Jean était un peu plus érudit que Pierre. Jamais. À ses apôtres, il a parlé en homme. Aimant de Dieu, en fils bien-aimé du Père. Il a révélé son cœur. devant Pilate. Et devant Pilate, il se vante quelqu'un de bien plus cultivé que ses apôtres. Pilate est quand même le représentant de César. C'est quelque chose. César qui est l'empereur le plus puissant du monde. En face de Pilate, Jésus parle philosophe. Il dit ouvertement qu'il est roi. Il n'a jamais dit ça à Pierre. Pauvre Pierre, qu'est-ce qu'il aurait fait? Si Jésus avait dit qu'il était roi à Pierre. Pierre aurait dit, mais non, moi je ne suis pas fait à ta suite. Va chercher à Jérusalem des gens érudits. Jésus a pris des Galiléens. Faut voir ce que c'est. Des Galiléens. C'est pas grand chose. C'est des pêcheurs, des hommes peu, très peu cultivés. Qui ont bon cœur et qui savent travailler. Bon travailleur. Ah oui, ça. Ça sûrement. Papa des pauvres, pas du tout. Pierre était chef d'une petite entreprise. Une petite entreprise, c'est évident. C'est pas des pauvres. C'est des gens qui travaillaient. Et Jésus a choisi des travailleurs. Pas tous. Il a choisi un collecteur d'impôts. Un goût extraordinaire, un collecteur d'impôts. Pour bien montrer qu'il était ouvert à tous ceux qui gagnaient leur vie, honnêtement. Mais c'est vrai, c'est intéressant de voir comment Jésus a choisi les 12. Comment il les a choisis, il a choisi même Judas. Si Pierre avait choisi, il n'aurait pas choisi Judas. Jésus savait. Il fallait que parmi les 12 Judas. C'est très mystérieux tout ça. Il n'a pas choisi, vous voyez, à Jérusalem. Il aurait pu aller à Jérusalem. Et choisir quand même ceux qui étaient les théologiens. Faire une petite tournée au Sanhédrin. Et puis au Sanhédrin faire passer un examen. Et dire voilà un tel. Oh oui, toi tu es bon. Et puis arriver à les séduire tous, en faisant une grande leçon de théologie, montrer qu'il connaissait bien mieux que tous l'Ancien Testament, et qu'il les battait tous. Et alors à ce moment-là, on aurait vu quelques petits jeunes étudiants de théologie montrant tous leurs talents, toutes leurs qualités, et répondre à Jésus, et dire, ah, prends, voilà, celui-là. Non, il n'a pas choisi du tout ses disciples. À Jérusalem, au milieu des théologiens. À choisir en majorité des gens de Galilée. Et il fallait voir ce que c'était que Galilée. Rien ne peut sortir de bon Galilée. C'était le proverbe. Alors voyez en France où se trouve Galilée. Rien ne peut sortir de bon tel endroit. Et Jésus a choisi exprès cet endroit. Exprès. Les Galiléens. Faut voir ce que ça veut dire quand ils disent oh, les Galiléens. Faut voir. Ceux-là, ils sont pas très intelligents. Tout juste pour boire des pêcheurs. Tout juste. Et c'est très mystérieux comment Jésus a choisi. Et c'est très grand. C'est très grand. C'est pas du tout parce que Jésus est contre l'intelligence. Pas du tout. En face de Pilate, il se montre très intelligent. C'est le passage de l'évangile le plus intelligent. Extraordinaire. En face de Pilate, il montre qu'il est capable de parler à un philosophe. Et de lui montrer des choses étonnantes. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Pour Pilate, ça ressemble. Il aurait dit ça à Pierre. Mais je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Pierre aurait dit, oh, je suis pas fait pour toi. C'est sûr. Tandis qu'à Pilate, Pilate était merveilleux. Émerveillé. Il est conquis, Pilate. bien comprendre avec tout le réalisme que ça représente. Jésus n'a pas choisi des intellectuels. Non. Ça ne veut pas dire que les intellectuels ne font pas partie de l'Église. Non, 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 non. Pas du tout. L'Église veut qu'il y ait des théologiens. Jésus veut qu'il y ait des philosophes. Jésus veut qu'il y ait des hommes de recherche. Ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas le choix premier. Le choix premier, Jésus regarde la qualité du cœur. C'est ça qu'il regarde, la qualité du cœur. C'est pas la qualité d'intelligence. Non, non, pas du tout. Et on dévite-t-on quand on regarde la qualité d'intelligence en premier lieu. C'est la qualité du cœur. M'aimes-tu ? M'aimes-tu plus que les autres ? C'est ce qu'il demande à Pierre. Il dit pas à Pierre, ah, enfin, au bout de 3 ans, es-tu un peu intelligent maintenant ? Est-ce que tu es devenu un peu intelligent ? Est-ce que tu arrives à comprendre un tout petit peu ce que j'enseigne ? Pas du tout, il ne fait pas passer un examen. M'aimes-tu ? M'aimes-tu plus que les autres ? Parmi les autres, il y a Jean qui était fidèle. Pas commode pour Pierre de répondre qu'il aime plus que Jean. Et Jésus veut qu'il ait dans son cœur un désir d'aimer Jésus plus que Jean. On doit avoir ce désir d'aimer Jésus plus que tous. En acceptant du reste que Jean passe devant, Pierre l'a accepté. C'est très respectueux vis-à-vis. Très respectueux, c'est pas étonnant. Jean était fidèle jusqu'au bout. Les gens, c'est les qualités du cœur avant tout, plus que d'intelligence. Alors si on peut allier les qualités de l'intelligence et les qualités du cœur, c'est très bien. Mais c'est les qualités du cœur qui dominent toujours. Toujours. Parce que ce qui est premier, c'est d'aimer. On ne passe pas un examen pour être chrétien. Il y a le catéchisme. C'est pas un examen, le catéchisme. C'est les qualités du cœur. Donc, vous voyez, là, Jésus est venu pour nous sauver. Il est le sauveur. Et pour être parfaitement sauveur, il est le Fils qui s'est incarné. Alors que, dans l'autre perspective, l'incarnation se comprend comme un achèvement d'incarnation, de la création. Il faut que la création rejoigne Dieu. Alors là, on a Don Scott. Et ensuite, parce qu'il était le premier dans l'humanité, il sauve les hommes. Oui, comme l'aîné, qui sauve les autres. Jésus ne paraît pas du tout comme ça. Il apparaît comme le Benjamin. C'est toujours les Benjamins qui sont plus aimés. C'est curieux. Il faut retrouver cette constance. Pourquoi ? C'est les plus petits. Il vient comme un pauvre. Il aurait pu apparaître comme quelqu'un qui est au sommet de tous. Parce qu'il l'est. Apparu comme le pauvre. Il a vécu à Nazareth. Il a vécu en compagnie de Marie et Joseph. Comme un charpentier. Un homme honnête. Pas bête. Artisan. Il a commencé sa vie apostolique à 30 ans. Il y a divers regards sur Jésus. Jésus de Nazareth, Jésus au désert, Jésus choisissant ses apôtres, Jésus crucifié.
Session théologique par le Père Philippe Arimon, le 4 novembre 90.
Nous allons essayer ensemble d'entrer dans le mystère de la croix et la résurrection, puisqu'on ne peut pas les séparer. Il est dit explicitement, il était nécessaire qu'il ressuscite. Et c'est très très important, au point de vue de la théologie, de voir qu'entre la croix et la résurrection, il y a un lien de nécessité. Tandis que quand il s'agit du mystère de la croix, on peut dire que beaucoup de détails, et même le mystère de la rédemption, auraient pu se réaliser autrement. Mais là, le théologien est très sensible à cela. Entre le mystère de la croix et de la résurrection, il y a un lien de nécessité. Tandis que le mystère de la rédemption aurait pu très bien s'accomplir autrement. Jésus étant fils de Dieu, Jésus étant le Verbe incarné, la seconde personne de la très sainte Trinité qui assume la nature humaine. Tous les actes du Christ ont une valeur infinie, puisque c'est les valeurs d'un homme Dieu. Il y a une charité parfaite et plénière dans le Christ. Et le Christ a une dignité de personne qui est unique. Puisque, en tant qu'il est le Verbe, il est le Fils bien-aimé du Père. Il est éternel. Il est Dieu. Il est un avec le Père. Et donc, tout ce que Jésus réalise, la moindre prière du Christ, aurait pu sauver tous les hommes. C'est une valeur infinie. Nous avons de la peine à comprendre ça, mais c'est quand même la vérité. Le Christ, c'est le Verbe devenu chair. C'est Dieu qui s'est penché sur l'humanité, qui s'est penché sur Marie. Il l'a choisi pour être mère de son fils. Il a voulu que l'incarnation se passe de cette manière-là. Il aurait pu très bien le réaliser autrement. Mais Dieu a voulu être parfaitement homme, c'est-à-dire toute la croissance de l'homme, depuis le premier instant de la conception jusqu'à sa mort, pour que l'humanité soit parfaitement transformée en lui et qu'il puisse la sauver. La sauver d'une manière telle que l'état de l'humanité dans le Christ Sauveur est préférable à l'état de l'humanité avant la faute. Oui, c'est un geste royal d'ami que Dieu fait. Et quand vous, les parents hein, qui corrigent leur enfant, parce qu'il est trop gourmand, par derrière, il a été chipé un pot de miel. Puis, il a mis ça bien à l'abri. Puis, il en prend régulièrement. Parce que c'est bon. Qu'est-ce que fait sa mère quand elle découvre le poteau rose? Elle le corrige quand même. Elle ne va pas le corriger d'une manière telle que il va avoir 100 pots de miel. Parce que tu as voulu ce pot de miel, que tu l'as pris. Bien, je vais te donner quelque chose encore beaucoup plus beau qu'avant. Non, pas du tout. Elle commence par le prendre, puis hein, ce soir, pas de dessert. Tu en as eu assez. Tu as une propension au sucre, eh bien, pendant un certain temps, tu n'en prendras pas. Tu mets le miel. Ce que font tous les bons indicateurs, quoi. Ils punissent. Et la punition, c'est... On s'en rappelle. Des punitions fortes, hein, on s'en rappelle. Ça reste toute notre vie, quoi. C'est comme ça qu'on punit quelqu'un. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu... C'est peut-être ce qui fait le mieux comprendre ce que c'est Dieu. Dieu punit l'humanité, c'est vrai, dans son Fils bien-aimé, pour que l'humanité puisse, par le mystère de la satisfaction que Jésus fait, que l'humanité puisse connaître un état plus parfait qu'avant. Heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur. Et c'est vrai. Jésus vient comme ami des hommes. Dans la liturgie orthodoxe, on rappelle tout le temps cette très belle expression. Jésus, ami des hommes. On ne le dit pas beaucoup dans la liturgie latine. Un tout petit peu. Très peu. Tandis que dans la liturgie orthodoxe, ça revient tout le temps. Jésus, ami des hommes. J'aime beaucoup ça. Parce qu'il est venu en amitié. Comme ami des hommes. Pour réparer la faute. Et établir l'homme dans un état plus profondément d'unité, d'amour avec Dieu qu'avant. Heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur. C'est vrai. Nous sommes, nous, après la faute, dans un état d'intimité plus grand avec Dieu, avec le Père, si nous le voulons, que Adam et Ève avant la faute. C'est quand même extraordinaire, ça. Dieu se sert de la faute pour faire quelque chose de plus grand. Pour donner davantage son amour. C'est ça le grand mystère de la rédemption. C'est pas pour nous rétablir, tout simplement, dans la justice originelle. Avant le péché. Il aurait pu le faire. Oh, il aurait pu très bien faire ça. Il aurait pu réparer la faute, c'est-à-dire pardonner. Être magnanime. Après tout, Dieu est magnanime. Dieu est grand. Et donc, il aurait pu dire, cette faute, je m'en souviens plus. Et vous deviendrez tous comme avant. Donc, les rétablir dans le paradis terrestre. Dieu n'a pas fait ça. Il a voulu montrer la gravité de la faute. Et pour montrer la gravité de la faute, il a montré la manière la plus forte qu'il pouvait. Son Fils a porté toute l'iniquité du monde sur la croix. Il est mort à cause du péché. Il a connu la peine capitale. Hein, quand on dit une peine capitale, on sait ce que ça veut dire. C'est-à-dire la peine la plus grande qui soit. Vous ne pouvez pas avoir une peine plus grande. Jésus a pris sur lui la peine capitale de tous les hommes pour que nous soyons sauvés. Alors qu'il aurait pu très bien réparer autrement, par sa prière, tout simplement. Un quart d'heure de prière de Jésus aurait suffi pour sauver tous les hommes. Il n'a pas voulu ça. Il a voulu la croix. Mort comme un esclave. Comme un vaurien. Comme quelqu'un dont on se débarrasse. Comme un criminel. Comme c'était lui qui avait péché. Alors qu'il n'a commis aucune faute. Aucune. Toute sa vie. Pendant les 30 ans. Il a été le fils modèle à l'égard de Marie et de Joseph. Il a été l'enfant le plus parfait qui soit. Il a grandi auprès de sa mère, avec une tendresse pour Marie unique. Pas un seul fils n'a aimé autant sa mère que Jésus, d'un amour divin et d'un amour humain. Et Joseph aussi, il l'a aimé avec tendresse. Je ne sais pas quand Joseph est mort, j'en sais rien. Mais pas tout de suite. Hein. Je ne crois pas que Marie soit restée si longtemps avant la croix, veuve. On parlait toujours, c'est le fils de Joseph et de Marie. C'est le fils du charpentier. C'est donc récent dans la mémoire. C'est des chances. Je ne sais pas. Vous non plus, alors ça va. On ne sait pas. C'est pas quand Joseph est mort. C'est pas du tout comment il est mort. Et c'est pour ça qu'on dit le patron de la bonne mort. Parce qu'on ne sait pas comment il est mort. C'est bien évident. Il est mort comme un saint. Alors, la mort est un passage. Mais c'est aussi merveilleux, ça, Joseph. C'est pas du tout comment il est mort. Il a disparu. Saint Joseph, il est une telle humilité qu'il disparaît. Marie a été auprès de Jésus comme une mère très aimante. Et Jésus l'a aimée comme un fils très aimant. Jésus est resté caché pendant 30 ans, vivant la vie de tous les hommes. On ne voyait même pas sa beauté. C'est extraordinaire, ça. C'est quand même, hein. Il était Dieu. Il ne voyait même pas sa beauté éclater. C'est fou, ça. Que Dieu se cache comme un autre homme. Ça devait éclater quand même. Pour les yeux de Marie, oui. Mais pas pour les autres. Il était caché. Il portait tout. En silence. Il a voulu. Après le temps du désert, avoir des apôtres, 12. Il paraissait comme un chef religieux. Jean-Baptiste a reconnu qu'il passait devant lui, qu'il était l'agneau. C'est extraordinaire. Première prophétie sur lui, l'agneau de Dieu qui porte l'iniquité du monde. Tout de suite apparu comme ça, il est venu pour la rédemption. L'agneau qui porte l'iniquité du monde. Voyez, Jean-Baptiste n'a pas dit « Ah, c'est le Fils de Dieu !» Non, pas du tout. C'est l'ange qui a dit ça à Marie. Mais Marie a gardé ça dans son cœur. Et elle devait le garder dans son cœur, comme un secret. L'ange ne dit pas « Voilà l'agneau de Dieu, tu auras comme fils l'agneau de Dieu. » Pas du tout. Il sera le Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu. Et Jean-Baptiste découvre tout de suite que c'est l'agneau. L'agneau qu'on mène à la boucherie. L'agneau dont Isaïe a parlé. Le mystère de la croix. Et avant, Jésus forme des apôtres. C'est merveilleux. Et puis il meurt sur la croix. Jésus aurait pu nous sauver autrement que par la croix. Il a voulu nous sauver par la croix pour nous donner un enseignement d'amour. Pour nous donner un enseignement ultime d'amour. Parce que l'amour ne se prouve que par des actes. C'est la différence d'un enseignement. Un enseignement, on enseigne. Mais pour éduquer dans l'ordre de l'amour, il faut être tout proche de ce qu'on aime. manifester de la manière la plus forte son mystère d'amour pour nous, qui nous aimait plus que tout. Il est venu pour nous sauver, le Sauveur, et pour nous faire comprendre la grandeur de notre salut, pour nous faire comprendre la grandeur du mystère de la rédemption. Combien il nous transformait en enfants de Dieu pour nous montrer l'horreur du péché. Il fallait que Dieu lui-même, dans son Fils bien-aimé, porte toute la souffrance de la croix. Et toutes les circonstances de la croix, j'ai pas le temps avec vous, mais il faut essayer de comprendre cela. Comment toutes les circonstances de la croix montrent comment toutes les morts sont présentes dans le mystère de la croix. Il a porté tout cela, toutes les conséquences du péché. Le péché nous fait mourir à notre dignité d'enfant de Dieu. Le péché d'orgueil nous fait mourir à notre dignité d'homme, à notre dignité d'ami, à notre dignité humaine tout court. Et Jésus a voulu prendre toutes les conséquences du péché sur lui, toutes, pour que nous comprenions à travers lui l'horreur du péché, pour que nous comprenions à travers le mystère de la croix comment tout était repris dans un ordre nouveau, un primat absolu de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est la grande intention du Christ, manifestée aux yeux de tous, qu'il nous aime plus que sa propre vie terrestre, si digne et si grande qu'elle soit. La vie terrestre du Christ est infiniment plus précieuse que la nôtre, infiniment plus grande et plus belle que la nôtre. Bien, il a offert sa propre vie par amour pour nous et par amour pour chacun d'entre nous. C'est là le mystère. Il est mort pour tous les hommes, c'est-à-dire pour chaque homme en particulier. Il est mort même pour Judas. Quel a été le résultat de cette mort pour Judas? Je n'en sais rien. Il est mort pour Hitler. Il est mort pour les plus grands brigands. Il est mort pour les hommes les plus orgueilleux qui soient. Il est mort pour tous les hommes. C'est ça qu'il faut essayer. La foi nous le dit. Il est le rédempteur de tous les hommes. Il a porté pour tous les hommes. Le mystère de la croix est source de vie pour tous les hommes. Mais Jésus n'impose pas son salut, parce que c'est un salut d'amour. C'est par pur amour qu'il meurt pour tous les hommes. Et parce que c'est par pur amour qu'il meurt pour tous les hommes, Jésus n'impose pas son amour. Ce ne serait plus l'amour. C'est déjà un vrai point de vue humain. Vous ne pouvez jamais imposer à quelqu'un votre amitié. Ça peut être tragique quelquefois. Je voudrais tellement que celui-là soit mon ami. Je fais tout ce que je peux. Et plus j'en fais, plus il s'éloigne. Ça arrive. Alors on comprend. Jésus n'impose pas son amitié. Mais il le dit. Il est l'ami des hommes. Cette parole qui revient constamment dans la liturgie grecque est très belle. Il est l'ami des hommes. Et il offre son amitié à tous les hommes. À tous. Et tous n'entendent pas. Tous ne reçoivent pas. Tous n'en veulent pas. Et il vient comme l'ami des hommes. Pour porter. Marie est présente à la croix. Et Marie va compatir. Compatir, c'est-à-dire vivre dans son cœur de femme et de mère. Tout le mystère de la croix. Le vivre dans la foi, l'espérance et l'amour. Le grand mystère de la compassion. Mater dolorosa, la mère de douleur. Le calice, c'est les deux. On ne peut plus séparer le cœur douloureux de Jésus, le cœur blessé de Jésus, et le cœur douloureux de Marie. Les sept glaives. On ne peut plus les séparer. Et Jésus sait que Marie sera là et que sa croix va être source de souffrance pour Marie. Jésus sait que sa croix suffit à tout et que si Marie est là pour compléter, achever le mystère de la croix dans son mystère de compassion. C'est comme une surabondance d'amour. Ce n'est pas nécessaire au niveau de la justice. Jésus suffit à tout au point de vue de la justice. Mais c'est pour une surabondance d'amour et de miséricorde. Alors je crois, personnellement, en regardant bien les textes de l'Écriture, que Jésus demande en fils bien-aimé que sa mère soit épargnée. Tout fils bien-aimé aurait demandé ça. Et Jésus a fortiori. Il accepte, lui, de souffrir et d'aller jusqu'au bout. Et c'est intolérable pour lui d'entraîner sa mère. C'est intolérable pour son cœur d'homme, pour ce cœur de fils. Et Jésus demande, puisque son sacrifice suffit, Jésus demande qu'elle soit épargnée, que ce calice, vous voyez, le calice symbolise le mystère de la croix tel qu'il s'est réalisé. Or, le mystère de la croix tel qu'il s'est réalisé, selon la volonté du Père, c'est que Jésus entraîne Marie dans le mystère de compassion. C'est que Marie soit présente et que Marie vive au plus intime de son cœur tout le mystère de la croix. C'est comme ça que ça s'est passé. Or, Marie, c'est de l'ordre de la surabondance. La surabondance dans la joie et l'amour, très bien. La surabondance à la souffrance est intolérable. Tous nous connaissons ça. Quand nous portons certaines souffrances, certaines douleurs, dans la mesure où on peut la porter seule, on la porte seule. Et on ne la fait pas partager à ceux qui sont plus fragiles que nous. Marie est plus fragile que Jésus. Parce que Marie est une créature. Elle a une plénitude de grâce, c'est sûr, mais elle est une créature. Elle est une femme d'une terrible sensibilité. Parce qu'elle aime, l'existence de sa mère provient de lui. On a tous vu des camps comme ça. Surtout pendant la guerre, ça se présentait souvent. Et un fils bien-aimé voulait que sa mère ne souffre pas et qu'il lui porte tout, s'il pouvait tout porter. Or, Jésus pouvait tout porter, et il a tout porté. La souffrance de Marie au pied de la croix, c'est une surabondance. Jésus, portant toute iniquité du monde, satisfaisant pour tous les hommes, répare, mais il répare d'une manière telle qu'il donne une grâce plus grande. Parce que la grâce qu'il nous donne vient de lui, qui est le Fils bien-aimé. Et notre grâce nous lie au Fils bien-aimé. Heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur. Le mystère de la croix nous donne une grâce plus grande que la justice originelle. C'est toujours comme ça que Dieu fait quand il répare. Il répare d'une façon magnanime. Il a voulu réparer avec Marie. Seulement en enfants qui reçoivent